nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie a le plaisir de recevoir dans ses murs le lauréat du prix Christophe Mérieux 2007, un prix de l'Institut de France. Il s'agit du professeur Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Center de Bamako au Mali. Et ce prix récompense ses recherches et l'incite à poursuivre ses recherches sur le paludisme. Ogobara Doumbo, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors je disais à l'instant que vous venez de recevoir le prix Christophe Mérieux, un prix de 400 000 euros qui a pour but de contribuer à la recherche scientifique contre les maladies infectieuses dont fait partie le paludisme. Alors, tout au long de cette émission de 20 minutes, nous allons pouvoir parler du MRTC, le diminutif du Malaria Research and Training Center, qui, il me semble, a vu le jour en 89.
Le Malaria Research and Training Center a été créé officiellement par le gouvernement de la République du Mali, parce qu'il y avait deux ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé, en ces temps, le National Institute of Health des États-Unis, l'OMS, l'Université de Marseille, l'Université de Rome, l'USAID, la Rockefeller Foundation. Voilà un peu les partenaires qui se sont mis ensemble pour créer en Afrique un centre de formation et de recherche sur le paludisme, en se basant sur la complémentarité de deux scientifiques, le professeur Yaya Touré, qui est un entomologiste médical, et moi-même, parasitologiste médical.
Et alors, vous dirigez ce Malaria Research and Training Center depuis 92 à peu près?
Voilà, depuis sa création, donc mon aîné, le professeur Yaya Touré, a été le directeur de ce centre, et il nous a quittés après avoir rempli sa mission en 2001 pour aller à l'OMS, et j'ai repris donc la direction du centre.
Alors, nous allons pouvoir parler en détail de ce centre qui a un fonctionnement bien particulier et dont certains scientifiques, en tout cas, essaient de prendre modèle, notamment le prix Nobel de médecine 89 et ancien directeur du NIH, Harold Varmus. Ouais. Alors, quel est ce fonctionnement particulier, Ogobara Doumbo?
Non, c'est vrai que nous avons eu la chance au Mali de créer un centre de recherche et de formation à l'université de Bamako, et de l'animer et d'atteindre les trois objectifs qui nous ont été assignés. Donc, sur le plan de la structuration, sur le plan du fonctionnement, il y a beaucoup de leaders internationaux qui demandent si on arrivait à cloner ce qui se passe au MRTC, et c'est possible d'amplifier la recherche en Afrique. Et je crois que c'est l'organisation d'abord. Et au niveau structurel, elle n'est pas très contraignante, parce que c'est basé dans un département, le département d'épidémiologie des affections parasitaires. Et en tant qu'universitaire, donc, je suis le responsable de ce département. Et le centre est un centre universitaire. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas la contrainte administrative des instituts ou bien des centres qui sont autonomes. Ce qui fait que c'est un fonctionnement universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un directeur que scientifique, parce que c'est ce que ça veut dire. Et je suis un animateur d'équipe. Donc, sans responsabilité administrative ou financière ou morale. Ça, c'est dû au doyen de la faculté et à l'université, au ministre de l'Éducation. Donc, avec cette structure légère, simple, nous sommes organisés en unités. Et les unités de formation et de recherche. C'est-à-dire, chaque fois qu'un scientifique malien formé dans le cadre des objectifs du centre revient de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne, nous créons son unité conformément à sa spécialité. Et nous le soutenons pendant 2 ans, le temps qu'il puisse avoir une maturation et créer son équipe, avoir ses propres grants et le gérer lui-même et faire ses publications. Donc c'est cette autonomie scientifique que nous donnons à nos chercheurs qui fait que c'est attrayant.
Alors justement, ces chercheurs, je crois, ont la particularité, il n'y a pas d'étrangers pour le coup, il n'y a pas de chercheurs américains qui viennent dans votre laboratoire ou européens ou autres.
Non, je ne le présenterai pas comme ça. C'est-à-dire, dans ma philosophie et avec le professeur Yaya Touré, nous nous sommes dit la recherche internationale, elle est ouverte, elle est collaborative. Donc on ne peut pas s'isoler quelque part en Afrique, dire qu'on développe un centre qui est fermé. Non, ce n'est pas du tout ça. Nous disons à nos collaborateurs américains, français, britanniques, il faudrait qu'ils participent à la formation de l'homme malien en matière de recherche, c'est-à-dire d'en faire un scientifique de haut niveau. Donc, ils collaborent à cette formation et nous faisons des projets en commun. Et quand nous faisons des projets en commun, ils viennent travailler avec nous d'une manière temporaire, ils font le transfert de technologie et ils nous reçoivent dans leurs laboratoires pour faire. Donc, c'est cette collaboration que nous avons privilégiée au lieu d'avoir sur place des étrangers qui dirigent les équipes.
Alors, parlons peut-être plus concrètement de vos recherches, oui. Et notamment d'une publication dans Nature en 2005. Je suppose que depuis, les choses ont avancé. Vous travaillez sur un possible vaccin contre le paludisme.
Depuis 2005, on a fait à peu près une trentaine de publications, oui. Dans des revues importantes aussi, dont la plus récente est dans Plots, sur l'essai clinique de vaccins. Et sur le polymorphisme parasitaire que nous avons développé. Et en fait, je vous ai dit que le centre a trois objectifs. Le premier, c'est de développer les capacités de recherche de l'homme malien et de l'Africain pour adresser la question du paludisme. Donc, depuis sa création, je pense que cet objectif est atteint parce qu'il y a une trentaine de chercheurs de niveau PhD qui ont été formés et qui commencent à être autonomes. Et deuxièmement, le gouvernement nous a dit de tester des stratégies de lutte contre le paludisme pour essayer d'appuyer le programme national de lutte. Donc, que nos résultats soient consommables en santé publique. Et je peux vous dire que la protection des femmes enceintes qui s'appelle TPI en Afrique de l'Ouest, c'est un des résultats que nous avons publié dans GID avec le CDC. Le développement des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, nous avons beaucoup contribué. Et l'intégration des tradis praticiens dans la pratique de santé publique, ce sont nos résultats. Donc cet objectif aussi, nous sommes tout à fait en phase. Le troisième objectif, c'est dont vous parlez, c'est que le centre devrait être capable, à partir des années 2002, de contribuer à la mouvance internationale de la communauté scientifique pour le développement de nouveaux produits et de vaccins. Et nous avons commencé par former des équipes d'essais cliniques. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'est des étrangers qui venaient pour faire les essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3 en Afrique. Au Mali, nous avons privilégié la formation des équipes au niveau international. Ce qui fait que sur le plan clinique, personnellement avec certains les membres de l'équipe, nous avons été à Dallas pour être certifiés par l'American Association of Clinical Trials. Nous avons été à Harvard pour l'éthique. À Johns Hopkins pour l'épidémio, au NIH pour les aspects laboratoires, dans l'armée américaine pour voir ce qu'ils font. Nous avons visité ce qu'ils font au Kenya. Donc, fort de ça, nous avons bâti des centres d'essai cliniques au nombre de 3 de niveau international. Donc, qui sont International Conference for Harmonization Compliant, qui sont FDA Compliant, et avec un développement du comité d'éthique qui fait que nous effectuons des essais cliniques de phase 1, de phase 2 au Mali. Donc, l'article auquel vous référez est une suite d'un processus de recherche fondamentale qui accompagne ces travaux de vaccins pour chercher des gènes et des mécanismes qui pourraient expliquer la susceptibilité ou la résistance.
Parce que certaines personnes développent une résistance naturelle.
Tout à fait. Il y a deux axes que l'équipe malienne, en collaboration avec ses partenaires, ont bien décrit. C'est le premier, c'est que c'est la différence ethnique. Par exemple, quand vous avez deux populations sympatriques, comme les Peuls et les Dogons, dans une zone bien déterminée, les Peuls souffrent beaucoup moins de paludisme que les Dogons. Donc, nous sommes en train de chercher, avec l'Université de Stockholm, les mécanismes qui expliquent ça. L'autre élément important, c'est le polymorphisme érythrocytaire, c'est-à-dire au niveau de globules rouges. L'hémoglobine C, qui est aussi un de nos travaux importants, qui est assez fréquente chez les Dogons et les Mossi. Et les porteurs de ces gènes, effectivement, sont protégés contre les formes neurologiques. Et avec notre ami Tom Mellems-Eric du NIH, nous avons exploré les mécanismes cellulaires et nous sommes assez proches d'expliquer cette résistance.
Alors, petit rappel, peut-être, le paludisme, c'est un moustique qui transmet un parasite à l'homme. Et les travaux pour lutter contre le paludisme peuvent être à trois niveaux, c'est-à-dire travailler sur le moustique, travailler sur l'homme, en l'occurrence ce dont vous venez de nous parler, et également travailler sur le parasite en lui-même.
Voilà. Alors, le paludisme, c'est un trépied dans un complexe pathogène. L'homme, l'anophèle et le plasmodium. L'homme et l'anophèle ont coévolué depuis l'avènement de l'agriculture, à peu près 10 000 ans. Le Plasmodium falciparum est un parasite d'oiseau qui est descendu et qui est arrivé à l'homme il y a à peu près 3000 à 6000 ans, selon les estimations. Donc c'est un parasite qui évolue avec nous depuis à peu près 3000 ans au minimum. Et pour travailler sur ce complexe pathogène, il faut comprendre donc, le fonctionnement des mécanismes chez l'homme. C'est ça l'hémoglobine C, les PEUL, le déficit en GCPD, l'hémoglobine S, etc. Et d'autres haplotypes à partir du génome humain sur lesquels nous travaillons avec l'université d'Oxford et de Cambridge. Et le parasite. Et nous venons, comme je vous ai dit, de sortir un papier pour accompagner la recherche vaccinale, pour essayer de trouver est-ce qu'on ne peut pas améliorer les constructs de vaccins en regardant le polymorphisme, la variabilité du parasite dans une zone donnée. Et nous commençons à comprendre de plus en plus comment, au niveau génétique, ces parasites varient pour s'adapter soit aux médicaments, soit à la défense immunitaire. Le moustique, je vous ai dit que nous avons créé ce centre avec un collègue, le professeur Yaya Touré, qui est un excellent entomologiste médical. Et avec l'équipe du professeur Kouloudji, il a disséqué toute la cartographie génétique de l'Anopheles gambier. C'est pour ça que vous trouvez Anopheles gambier, forme chromosomique Mopti, Bamako, etc. Ça vient du Mali. Donc nous avons une grosse équipe d'entomologie au sein de MRTC qui contribue à toute la recherche sur les moustiques aussi.
Donc voilà, vous combinez en fait toutes ces recherches, puisqu'il me semble qu'il existe maintenant aussi des recherches sur une protéine au niveau du moustique qui, pareil, permet au moustique de s'immuniser contre le plasmodium en fait, et qui, de ce fait, ne le véhicule pas.
Ouais. Non, c'est vrai que nos collègues entomologistes ont publié dans la revue Science en 2005 avec Ken Wernick. Ils ont démontré que l'une des formes chromosomiques de l'Anopheles gambier mopti et avait une capacité de bloquer la sporogonie, c'est-à-dire la multiplication du moustique, du parasite sur le moustique. Ils sont arrivés à identifier des gènes d'intérêt. Donc c'est pour ça que l'idée de vaccination écologique est en cours, c'est-à-dire comment on peut sélectionner des moustiques qui sont incapables de la multiplication sporogonique et augmenter leur population et aller occuper sur le plan écologique une niche particulière des gîtes larvaires et favoriser sur le plan dynamique populationnel ces moustiques qui sont incapables de produire. Donc, notre équipe d'entomologistes travaille beaucoup là-dessus.
On parle aussi beaucoup pour le paludisme d'une politique de prévention. Est-ce que la prévention fait partie également d'une partie du laboratoire? Est-ce qu'il y a une partie allouée à la prévention?
Absolument, c'est ce que je vous ai dit. L'un des objectifs majeurs, c'est de traduire nos résultats de recherche en action. Et les trois composantes de la lutte contre le paludisme, c'est les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc c'est depuis 1984, notre maître, le professeur Rank et le professeur Yaya Touré ont commencé à travailler. D'autres équipes ont complété et maintenant, c'est l'une des stratégies de protection chez la femme enceinte et chez l'enfant. Donc ça, c'est la prévention. Et ensuite, les TPI, le traitement intermittent préventif. Je vous ai dit que nous avons développé, après le CDC, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest avec eux, une stratégie qui consiste à donner une dose de sulfate d'oxyde pyrimétamine à la femme enceinte quand elle a 9 mois de grossesse, quand elle a 4 mois. Elle revient à 8 mois, on lui donne et c'est terminé. Ça nettoie le placenta, ça protège l'enfant, ça coûte moins de 1 euro. Donc c'est une stratégie préventive pour protéger la femme enceinte contre les petits pois de naissance.
Justement, vous parlez moins de 1 euro. À chaque fois, ce qui est invoqué, c'est le coût des médicaments. Qu'est-ce que vous pourriez dire face à ce problème de financement?
Voilà, je termine les stratégies de lutte en disant il y a les combinaisons thérapeutiques. Quand vous donnez une dose à l'enfant correctement, ça guérit l'accès simple. Donc, tout ceci a un coût. Et nous avons la chance pour dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'ensemble des efforts au niveau international et à amener des initiatives en Afrique. J'ai nommé Rollback Malaria, j'ai nommé les fonds GET qui financent tout ça, j'ai nommé les initiatives du président Bush, président Malaria Initiative, qui a amené beaucoup d'argent dans nos pays pour soutenir justement ces stratégies. Et je peux vous dire, en ce qui concerne le Mali, le président de la République du Mali, lors de son discours du Nouvel An 2007, en janvier, a déclaré que les TPI, ça sera gratuit chez les femmes enceintes. Les moustiquaires, ça sera gratuit chez les femmes
enceintes. Chez les femmes enceintes.
Et chez les enfants. Et les combinaisons thérapeutiques seront gratuites. Donc, je pense que l'Afrique n'a pas un problème de sous actuellement pour gérer le paludisme. C'est une question de ce que nous appelons scaling up. comment faire de telle sorte qu'avec les ONG, les acteurs au développement, que 80% des femmes enceintes et 80% des enfants aient accès à ces stratégies. C'est ça qui est le problème.
Alors, juste peut-être pour, on va dire, un peu plus planter le décor, peut-être rappeler quand même les chiffres. Hein. C'est à peu près 1 million de personnes chaque année qui meurent du paludisme. C'est ça les chiffres? Une personne qui meurt toutes les 30 secondes?
Voilà. En gros, il y a l'une des estimations actualisées qui a été réalisée par mon collègue et ami, le docteur Bob Snow, qui travaille au Kenya, c'est un Britannique, il a publié dans Nature, c'est que il y a à peu près 500 à 600 millions d'accès chaque année, dû au paludisme, à Plasmodium falciparum. En Afrique au sud du Sahara, il y a entre 1 à 2 millions de décès, donc ce qui fait un décès toutes les 30 secondes, ce qui fait à peu près 2 à 3 tsunamis en Afrique chaque année qu'on ne voit pas. Et ensuite, pire que ça, c'est les 25 à 30% des femmes enceintes qui manquent de sang et les 10 à 15% de petits pois à la naissance et qui augmentent la mortalité infantile. Et pire que ça encore, les études de cohorte que nous avons développées avec nos collègues de l'Université de Marseille, le professeur Dessin, nos collègues de l'Université de Libreville, le professeur Kambila, notre collègue neurologue de Paris avec le professeur Dulac et de Limoges, le professeur Preux, et le professeur Dumont, et nous ont permis de démontrer que les enfants qui ont souffert de neuropaludisme cérébral, c'est-à-dire la maladie cérébrale, même guéris, il y a 10 à 15% de séquelles qui sont incompatibles avec la socialisation, avec la créativité, et ce sont les enfants qui ne vont pas à l'école. Ce sont des déchets sociaux, et ça n'avait pas été encore pris en compte. Voilà le problème du paludisme.
Alors, pour terminer cette émission, quels sont les objectifs à venir pour le laboratoire et donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter voilà, pour les années à venir?
Alors, nous avons d'abord des objectifs, trois objectifs. Le premier, c'est de maintenir cette masse critique des jeunes formés et de créer l'engouement à la recherche pour qu'ils restent dans leur pays. Nous, nous sommes pour ce que nous appelons la circulation des cerveaux en Afrique. Il n'y a pas de fuite, Dieu merci, chez nous pour le moment. Et deuxième objectif, c'est d'aider le programme national de lutte contre le paludisme à faire de l'advocacy, c'est-à-dire le plaidoyer et utiliser à hauteur de souhait les stratégies que je vous ai développées tout à l'heure. Et troisième objectif, je crois que le meilleur souhait qu'on peut nous faire, c'est que l'équipe malienne puisse contribuer réellement à une meilleure compréhension des mécanismes en utilisant les données de la génomique fonctionnelle et la protéomique pour le développement de stratégies futures de vaccins ou de médicaments.
Eh bien, je vous remercie, professeur Gobara Dumbo, de nous avoir rendu visite. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez donc reçu le prix Christophe Mérieux 2007, prix de l'Institut de France, pour le MRTC, le Malaria Research and Training Center, à Bamako, au Mali. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci.
Et puis, bonne conférence à Stockholm, puisque merci. Vous nous avez confié que vous partiez à Stockholm. Merci beaucoup, au revoir.